d'attente.
Parc d'attractions et digressions. Salut Guillaume, salut tout le monde.
Salut tout le monde, salut Louis.
Alors Universal, eh bien c'est un beau logo de notre chère planète bleue qui tourne au début de certains films avec cette fameuse musique épique. Mais pas que, figurez-vous. Avec 7 parcs répartis dans 5 resorts à travers 4 pays et des millions de visiteurs, c'est aussi le challenger de Disney sur ce terrain de jeu que nous arpentons dans la file d'attente que sont les parcs à thème.
Et oui, et avec son positionnement à l'opposé du rose bonbon et de la fameuse magie Disney, les parcs Universal ont réussi à imposer leurs propres codes qui sont encore malheureusement assez méconnus en Europe, grâce à des franchises plus adultes et des rides qui ne lésinent pas du tout sur les sensations. Alors fort du succès croissant de ces parcs, Universal est en pleine expansion actuellement, pleine expansion de ses activités touristiques avec des projets toujours plus surprenants. Ils arrivent toujours là où on les attend pas, Universal pour l'instant, et aussi des rumeurs de plus en plus insistantes sur un hypothétique retour d'un parc Universal en Europe. C'est donc l'occasion de parler aujourd'hui de Universal Destinations and Experiences.
Bravo.
Félicitations.
Et donc la rumeur est lâchée dès le début de l'épisode.
Mais oui,
Universal retourne en Europe, donc c'est acté. Hein. C'est... D'ailleurs, on va dire pourquoi retourne et pas arrive, parce que moi j'ai appris ça en fait. Hein.
Ah, tu l'as appris en préparant cet épisode.
En préparant cet épisode, oui,
eh ben,
oui
écoute,
car je prépare longuement ces épisodes, j'espère que ça s'entend.
Universal Destinations and Experiences, figure-toi Louis que c'est le nouveau nom de la division qui s'appelait, je crois auparavant, Universal Parks and Resorts, et on va découvrir aujourd'hui pourquoi ce changement de nom, petit teasing, puisque le but c'est de ne plus faire que des parcs d'attractions, non, l'inverse, attendez, tu vois ce que je veux dire ou pas? De ne plus que
je
faire
que
des parcs...
Dire.
Non, je recommande.
Oui.
De ne plus... Voilà. Il y aura autre chose que des parcs d'attractions, dorénavant. C'est ça que je voulais dire, la phrase. Avant de se plonger dans le monde des parcs Universal, petit remerciement à tous nos auditeurs qui nous ont suivis dans notre podcast dernier, un podcast en chère monde compagnie avec Valoche qui nous a raconté son premier trip à Disney et Universal en Floride. Un épisode qui faisait combien, Louis?
1400 heures, et vous avez tout écouté, et on en est vraiment très flattés. Oui, on était quoi, 2h44, je crois,
2h45, c'est complet, je crois qu'on a éclaté tous les scores.
Énormes zinzinades.
Alors nous, en général, dès que les épisodes font 1h30, 2h, on est là, c'est... désolé. Et là, c'était, voilà, on a pété le plafond. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'on
entièrement de sa faute. Hein. On ne l'arrêtait pas. Je veux dire, c'était vraiment. Voilà, si tu nous écoutes, tu ne seras plus réinvité. Ou alors des épisodes en trois parties.
Oui, surtout ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on a quand même coupé 4h50 de l'enregistrement.
Oui. On a eu quand même au moins 2 commentaires élogieux à ce propos-là, et donc on vous remercie tous les deux.
C'est-à-dire des mecs qui nous ont dit, moi je travaille en voiture, je fais beaucoup de routes, et donc là ce matin j'ai un voyage de 3 heures pour le taf, et merci de faire des épisodes aussi longs. Donc voilà, dorénavant, soyez pas étonnés si les épisodes commencent à faire 5h30,
voilà,
pour vous accompagner dans vos déplacements quotidiens.
Et c'est toujours le truc un peu bizarre, c'est-à-dire que nous on commence à parler maintenant, vous savez, en écoutant l'épisode, enfin vous regardez sur votre téléphone, vous voyez combien de temps il dure, nous évidemment on ne sait pas encore, donc voilà, on a peut-être 4 heures devant nous, on ne sait
pas. C'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que, et après on arrête la première digression, sinon on va pas s'en sortir, on va encore être sur 4 heures, ce qui est drôle, c'est que notre podcast est hébergé sur Spotify, à la base, et donc
on les connaît personnellement, donc voilà, ils nous hébergent gratos, c'est
Sven,
sympa de leur
Bjorn
part
et tout ça, c'est nos potos,
ouais.
Et donc en fait pour les auditeurs qui nous écoutent sur Spotify, donc vous faites peut-être partie, et ils sont très très, en fait je crois que c'est la majorité de nos auditeurs, pas une majorité absolue, mais genre il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent sur
majorité
Spotify
relative,
ils nous ont merci, on a accès à des statistiques de type à quel moment les gens se sont arrêtés d'écouter. Alors je vous rassure, il n'y a pas votre nom à côté. Hein,
on sait tout de vous. Tu commences à faire flipper les gens. On sait exactement ce que vous avez bouffé à midi. On sait, on connaît vos pratiques les plus intimes. On sait où vous êtes. D'ailleurs en temps réel. Donc,
et par que rien, il appuie sur play, mais il écoute que 2 minutes du podcast, donc non, c'est
le
pas cool.
Le salaud, ouais. On sait que c'est lui, on sait que c'est lui.
Mais donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que cet épisode est très 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 long, et donc merci d'être resté avec nous, parce qu'on voit que la courbe n'a pas fléchi. C'était voilà, vous êtes restés avec nous jusqu'au bout, donc félicitations et d'en être venu à bout. Et puis on va commencer comme ça. Cet épisode ne dure pas.
Et puis peut-être que est-ce que ça nous donnerait pas l'idée là tout de suite,
oui,
de faire un podcastaton? Mais je crois que ça existe déjà pour autre chose. Mais en gros, le record du podcast le plus long, il faudrait regarder.
Mais
c'est
moi,
quoi,
je suis sûr que tu ouvres. Je suis sûr que t'as un livre des records. Toi, t'es le genre de personne qui a un livre des records chez soi. Oui. Chez toi.
Alors j'en ai un. Alors oui, mais alors je l'ai pas à portée de main, mais il doit dater un petit peu. Je pense que j'ai celui de 2014, tu vois, donc ça commence à dater un peu.
Okay. Il y avait encore des couvertures hypnotisantes.
Ça fait 10 ans. Bah bien sûr, c'est la verte avec. Et ouais. C'était toujours généralement d'un an à l'autre, c'était toujours un peu les mêmes records et t'avais vaguement 3 entrées en plus. Donc faudrait. Écoute, tu m'as donné envie, je vais m'acheter la nouvelle édition 2023, c'est certain. Et dedans, bah je suis sûr qu'il y a plein de nouveaux trucs numériques justement. Donc il y aura certainement le podcast le plus long.
Louis,
je suis sûr qu'on est sur
des
jours
et
des jours.
Nul en plus les trucs du livre des records, c'est genre le record de mec qui s'est plongé la tête dans 20 seaux d'eau à la suite. Enfin bon.
Non, ça c'est les émissions. Le bouquin, c'est des trucs un peu plus tous les trucs un peu genre record de vitesse, les machins. Pour les toilettes, c'est parfait. C'est fait pour.
Records de toilettes.
C'est fait pour. Non, pour quand tu es aux toilettes. Plutôt que d'aller sur TikTok.
Attends, il doit bien y avoir des records de toilettes. La plus grande toilette.
Oui,
la toilette la plus propre.
Ouais.
La toilette la toilette préférée des Français. C'est peut-être une bonne émission.
La toilette, par exemple,
entre le JT et le film de 20h30, de 21h.
Les toilettes
préférées.
C'est qui? C'est Stéphane Bern.
Ben, bien sûr.
Stéphane Bern qui présente ça. Ouais.
Bien, vous vouliez parler
de
parc Universal. Ouais.
Oui.
Avec, alors, on va partir, parce qu'évidemment, par où commencer? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec les parcs Universal, c'est que ils sont dans un tel boom qui a commencé un peu avec le succès phénoménal du Wizarding World of Harry Potter, donc ça nous ramène quand même en 2010. On va pas revenir en arrière à ce point-là.
On a déjà fait plein d'épisodes, mais l'angle qu'on voulait prendre, parce que tu m'en parlais au début en off, comme on dit dans le milieu des podcasteurs. on va parler surtout des projets en cours de développement, en fait. On va pas refaire toute l'historique de Universal, mais il y a au moins 2 ou 3 projets.
Et les rumeurs pas piquées des hannetons.
Et les rumeurs.
Mais donc on va. Alors où en est-on? On en est au parc Epic Universe. Si vous en avez pas entendu parler, je ne sais pas comment vous faites. Universal est en train de construire à Orlando, en Floride, son 3e parc d'attractions sur des terrains qui sont un petit peu plus loin. On est sur une ouverture prévue pour l'été 2025, et je peux vous dire que ce chantier avance à une vitesse fulgurante. Je trouve ça en fait assez fascinant de regarder à quel point.
Et alors quel est le... Tu peux nous dire un peu le terme? Alors, Epic Universe, c'est univers épique, pour ceux qui sont pas entièrement, entièrement bilingues.
On voit qu'il est épique. C'est Radio Londres ici.
Je suis chaud, hein. Et, non, mais alors, dis-nous un peu quelle est l'ambition, quel est le thème,
ambition.
Tout ça.
Gigamax, puisqu'on est sur des franchises de type Mario Bros. Donc on va avoir un land qui sera plutôt une copie du land Super Nintendo World qui existe au Japon, c'est-à-dire sur 2 étages. Alors il y aura Mario Kart, l'attraction qui a ouvert maintenant aussi à Hollywood. Il y aura une attraction qu'il n'y a pas à Hollywood, c'est-à-dire la petite promenade en Yoshi, la petite promenade tranquillou.
Un espèce de monorail, non?
Je sais ouais, plus. Vaguement, qui fait un peu tout le tour de la zone. Et il y aura en plus dans la zone Mario Bros, une zone sur Donkey Kong avec un roller coaster qui aura la particularité de vous faire, en fait, comme dans Donkey Kong, tu sais, t'es dans les petits chariots et parfois les chariots ils sautent au-dessus d'une portion de rail qui est pété. Ben ça te donnera cet effet-là.
D'accord.
Tu vois que Louis a complètement, il me regarde avec des yeux.
Tu parles de quoi? Tu parles d'un jeu vidéo?
Ouais.
Oui, de Donkey Kong.
Ouais.
Dans Donkey Kong, ouais, mais toi, tu me parles d'un Donkey Kong de quelle année?
De, je sais pas. C'est les trucs Nintendo, c'est quand même vaguement toujours la même chose, mais sur une nouvelle console, donc voilà.
Mais dans un jeu Donkey Kong, Il y a un truc de rail et tu sautes par-dessus des rails. Je ne vois absolument
ouais,
pas.
Ouais, ça y est, on l'a perdu sur Google déjà. Je vais poursuivre.
Ben non.
Il y aura.
Et c'est pas Mario Kart. Donkey Kong Game Boy, là, le tout premier. Tu fais pousser des tonneaux, machin, ça n'a rien à voir. Je crois que tu te trompes gravement, Guillaume. C'est surtout ça qui est en train de se passer.
Mais délivrez-moi.
Alors attends. Donkey Kong Rail.
Pendant qu'il fait ça sur Google.
Ah si, je vois, d'accord. Il y a des petites bananes. Oui, je vois. Alors c'est quoi? C'est Minecart Carnage. C'est ça dont tu parles?
Probablement.
Écoutez, les experts en jeux vidéo qui nous écoutent.
Donc bref, il y aura un roller coaster sur Donkey Kong qui va ouvrir. Donc ce sera quasiment vaguement un tiers ou deux fois la taille du land qui existe au Japon et à Hollywood. Donc ça, c'est déjà une très grosse franchise. Mario Bros, je pense que comme vecteur d'attractivité, c'est déjà énormissime.
Il y aura grave hâte.
En outre, une zone sur Dragon, j'allais dire. Putain, j'ai plus le nom en français. Ça s'appelle qui veut.
Mais parce que quand même,
qui veut épouser mon dragon. Nom... Je sais pas comment ça s'appelle en France là.
How to Train Your Dragon. Voilà. Mais le truc, c'est que Epic Universe, il y a quand même une idée. Comment tu appelles ça? Overarching, évidemment, je fais des anglicismes dégueulasses. Une idée ombrelle, une idée, tu vois,
oui.
Qui est voilà, qui sont les. Alors, au début, c'était vachement axé. J'ai l'impression qu'ils nous vendaient un truc, surtout un espèce de truc bestiaire, justement très sur les dragons, Harry Potter, les monstres, voire les méchants.
Oui.
Et maintenant, j'ai l'impression que ça s'élargit un petit peu. Enfin, le sens en tout cas qui donne à cette définition-là s'élargit. Mais il y a quand même Epic Universe dedans. Alors, je sais pas si Mario c'est très épique d'ailleurs. Mais
alors,
bon,
toi, tu parles de thème global. C'est vrai que si tu regardes le parc vu du ciel, en fait, il y a une zone centrale qui imaginez une sorte de Main Street, mais qui irait jusqu'au bout du parc et qui, enfin, une sorte de grand parc, un peu plus comme Shanghai Disneyland en fait, avec un grand parc au milieu, des lacs, des manèges et tout. Et en fait, cette grande zone serait plutôt basée sur des trucs un peu. Je suis pas très bon dans le délire, mais truc un peu vaguement céleste, astronomie, on regarde les étoiles dans le ciel, tout ça. Donc il y aura un peu une sorte de vague un peu steampunk, mais et si je comprends bien, en fait chaque land part de ce truc central comme s'il y avait une sorte de porte de portail d'entrée, donc qui te fait entrer dans chaque un portal.
Oui, une porte aux étoiles quoi.
Oui, le Stargate.
Stargate.
Voilà. Et donc voilà, on est sur des thèmes assez ben c'est des grosses IP. Donc on était sur Mario Bros, on a dit aussi How to Train Your Dragon où il y aura un roller coaster.
C'est chouette ça, cette franchise, t'aimes bien toi ou pas? Moi j'aime bien.
J'aime bien, je pense pour un truc Dreamworks, ça va.
Ouais.
C'est méchant?
D'accord.
Ouais. C'est le mot.
Moi, j'ai pas spécialement de dents contre DreamWorks, donc je
trouve les trucs DreamWorks, enfin, ils s'en écartent un peu aujourd'hui, mais ça a souvent tendance à être très dans l'air du temps. Et puis tu le regardes deux ans plus tard et les blagues sont dépassées, typiquement Shrek. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui.
Non, on touche pas à Shrek. On en parlera plus tard,
Voilà, How to Train Your Dragon, donc un grand coaster.
Mais alors, comment ça se fait que c'est parce que c'est DreamWorks, mais c'est quoi? C'est distribué par Universal ou ils ont juste loué la licence?
Je crois que DreamWorks, le studio DreamWorks, appartient maintenant à Universal.
D'accord.
Contrairement au studio Illuminations qui produit les Minions, qui est plutôt une sorte de partenariat.
Et qui est français, monsieur, évidemment.
Et alors, la blague. Non, je vais arrêter de chier sur les Minions, je sais que tu veux encore. Si je te dis banana,
non,
est-ce
moi
que
les
ça
mignons,
te fait
Parce que non, c'est mais ça, les mignons, les films mignons.
Tu dis banana,
les mignons, non.
La salle, c'est Sclaff.
Oui,
banana.
Mais
bah,
si là quand tu le dis, c'est quand même un peu drôle.
Merci.
Non, les films mignons, parce que je crois qu'il y en a eu deux maintenant. Moi, j'ai vu le premier, mais effectivement, au bout d'une demi-heure, t'es saoulé parce que effectivement, ça n'est que ça. Et le concept même de faire un film sur des sidekicks, ça marche généralement pas très bien. Et là, c'est pour le très jeune public, pourquoi pas. Mais moche et méchant. Non, c'est vrai, ça fait marrer les gosses, mais moi, chez Méchant, c'est super comme franchise. Et donc, justement, le dosage des mignons dedans, quand ils apparaissent que de manière sporadique et que c'est un tout petit peu, là, c'est très drôle. Mais effectivement, quand tu t'en tapes une heure et demie, bon, ça va, quoi.
Mais donc, il n'y aura pas les mignons à Epic Universe. Donc,
voilà, je ne sais même pas pourquoi on en parle.
A priori. mais donc, on est, alors, troisième zone. et que je trouve qui est peut-être la plus excitante, c'est une zone entière assez sombre sur les Classic Monsters d'Universal.
Ah
Tu connais cette...
ouais.
Alors, c'est pas exactement une franchise telle qu'on l'entend aujourd'hui, en
C'est
mode MCU, mais donc...
un peu comme les Disney Princess, c'est une
Exactement.
catégorisation
Ouais.
officielle, une
Marketing.
nomenclature, enfin, ouais. Ok.
Quels sont les monstres classiques d'Universal? Est-ce que tu peux m'en citer l'un ou l'autre?
Alors moi je crois que donc il y a je crois Frankenstein qui n'est pas Frankenstein. Je vois les geeks qui vont tout de suite
Frankenstein n'est
Frankenstein,
pas
c'est donc le nom.
Frankenstein, vous l'avez entendu dans la file d'attente, sachez-le.
Oui, c'est le nom du docteur. Donc je crois que la bête en elle-même n'a pas de nom. Donc on l'appelle Frankenstein par association. Donc il y a en tout cas le monstre du docteur Frankenstein. Il
Voilà.
y a Dracula certainement.
Je crois la
Le
momie.
comte Dracula. Ah, la momie, ouais.
Il y a un truc
Tout
aquatique,
ça, tout ça, quoi.
c'est pas Aquaman, c'est pas Aquafina, c'est Aqua quelque
Alors ça, je
chose.
sais pas, un monstre?
Ouais,
Un
un
monstre
monstre
aquatique?
marin. Et donc,
D'accord.
voilà, il y aura une sorte d'espèce de village un petit peu médiéval, un peu ouh, un peu n'est-ce pas?
Hey, toi, tu serais pas un peu un attaché de presse, toi? C'est toi qui écris
Je suis
les
payé.
résumés. Un petit village houhouhou vous accueillera dans toute son horreur.
Et donc là-dedans, alors et là on part un petit peu plus sur des rumeurs. Alors non, ce qui n'est pas une rumeur, c'est qu'il y aura un roller coaster plutôt familial qui serait sur un spinning coaster, figurez-vous, un petit peu comme on voit
Ok.
à Crash Coaster ou également à Plopsaland sur The Ride to Happiness dont tout le monde parle. Ça ce sera dans la zone Universal Monsters et il y aura un grand dark ride qui, dit-on, est basé sur la même technologie. On n'en parlait pas dans l'épisode précédent avec Valoche sur les bras articulés qu'on retrouve dans Forbidden Journey. Eh bien, ce serait cette même technologie, mais avec moins d'écran et plus de décor. Donc, je pense, ça peut être très excitant dans un univers un peu dark, un
À
peu
fond.
spooky.
Un peu
Je
houhou,
pense que ça
voilà,
peut
ouais.
être très très cool. Et enfin, dernière zone, c'est une extension du Wizarding World of Harry Potter qui a l'air d'être un compromis. C'est une expression qu'on utilise en Belgique, un compromis à la belge. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas choisir entre oui et non, et on a fait entre les deux, et ça a le cul entre deux chaises. Puisque, en fait, vu de l'extérieur, si je comprends bien, les bâtiments seraient inspirés de la franchise Fantastic Beasts. Donc on serait
Ah
dans
oui.
le Paris des années 30, un truc comme ça. Mais, je ne sais pas par quel tour de poudre de perlompompon, en fait, une fois que tu es dans l'attraction. Eh ben en fait, il se trouve au mystère de la magie british et l'attraction, d'après les rumeurs, serait basée sur un personnage, un des grands personnages de la saga Harry Potter, qui est Madame Dolores Umbridge, celle qui est habillée en rose, qui est une vraie pétasse, quoi, qui est
D'accord.
une horrible personne. Donc voilà, je pense que ça peut être ça me rend très curieux. De découvrir tout ça. Et donc, on est sur une ouverture de Epic Universe en 2025. Le chantier bat
C'est
son plein.
bientôt?
Je n'ai jamais vu autant de grues réunies à un seul endroit.
Mais c'est marrant parce que au tout début, je me souviens des annonces concernant le Epic Universe. J'ai l'impression qu'il y avait l'idée, c'était que ça soit vachement aussi retail, un peu voilà, un peu centre commercial, et que finalement, ça allait être un peu quelque chose d'un peu hybride entre le parc d'attractions et le centre commercial, ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus dans les centres commerciaux
Ah
eux-mêmes.
ben t'inquiète, ils vont pas passer
C'est
à
plus
côté
le
des
cas.
ventes de merch, ouais.
Ouais, mais il n'y a plus cet aspect vraiment très très tu sais, dining, t'y vas
Ben alors dans le
pour
développement de
passer
ce
une
truc,
soirée, pour
il était question que la zone centrale, dont j'expliquais tout à l'heure, qui est un petit peu sur un style un peu célestial, astronomie, machin, il était question que cette zone qui comporte, comme tu le dis, des restaurants, du merch, et deux, trois attractions de type carrousel et tout, était censé être une sorte de Disney Village accessible même quand le parc est fermé,
voilà.
et que t'entrais dans les
Donc comme
Landes un
le...
par un comme ça, mais je sais pas si c'est encore le cas actuellement, ce concept-là.
D'accord.
Le
Bon,
truc, c'est
on
que ce
verra.
qu'il faut
Comme le...
comprendre
Comment
avec
s'appelle Universal...
City Walk.
Merde. City Walk, quoi, voilà. Ouais, donc une zone ouverte gratuitement dans laquelle tu peux... Effectivement, t'as des cinémas, des trucs comme ça.
Ouais.
Ouais.
Ce qui
Surtout pour
est...
Universal.
Et je trouve ça intéressant parce que même si ça n'a pas été retenu, en fait, ces concepts-là, tu les vois que chez Universal. Disney serait incapable de même oser penser qu'on pourrait imaginer un Disney Springs avec des attractions, mais en fait, enfin voilà. Je trouve c'est, on le disait dans je ne sais plus quel podcast récent, qu'en fait c'est toujours assez disruptif. Est-ce qu'il y a un mot pour dire disruptif en français, Louis?
Bah, disruptif est un mot français.
Ah bon?
À moins que ça soit. On va regarder si Robert dit que
c'est. Demandons à Robert Rue, effectivement. Ouais. Et alors, pendant que tu regardes, donc on est sur 4 roller coasters, dont un dual coaster, qui sera assez spectaculaire. Un coaster lancé, et qui partirait en fait du centre du parc, donc le truc un peu astrologie, machin. Donc 4 gros roller coasters, dont un qui est un dual coaster. Et donc, ce qui est assez cool aussi, c'est que ce projet inclut 2 hôtels, dont un qui est collé au fond du parc. Donc, imaginez le Disneyland Hotel, mais comme s'il était plutôt du côté de Fantasyland, quoi. Ce serait un peu le truc final. L'hôtel qui s'appelle le Universal Grand Helios Hotel. Retenez bien ce nom, on en reparlera plus tard.
Ouh, il plante des petits.
Oui, hein. Restez jusqu'à la fin.
Alors, disruptif, écoute, la définition est tout à fait bizarre, puisque le Robert Dico en ligne dit « électricité, décharge disruptive, produisant une étincelle qui dissipe une grande partie de l'énergie accumulée ». Voilà, donc finalement, on en sait pas plus.
Ce que ça veut dire, c'est qu'ils arrivent là où on les attend pas. Voilà. C'est d'ailleurs.
Mais effectivement, c'est un peu un anglicisme, voilà, on ne sait pas quoi dire.
Moi, c'est assumé, hein, Louis. Je sais pas toi, mais disruptif, oui. Voilà. Alors, ça.
Donc c'est Epic Universe.
Ça, c'est sûr. Alors, sûr, finalement, rien n'est jamais vraiment sûr parce qu'on a déjà vu des trucs en construction qui finalement n'ouvraient tout simplement pas. On a eu une petite déception personnelle. Finalement, il y aura pas de parc Legoland en Belgique. C'est raté,
oui.
Niqué.
C'était bien avancé quand même, ce Legoland.
Les discussions, au niveau politique local et tout, c'était bien avancé, mais finalement le groupe Legoland s'est rétracté. En fait, je crois que le PDG a changé d'ailleurs, et donc ils veulent se recentrer sur leur truc existant, ce qui est un réflexe un peu typique en période de crise d'ailleurs, de se recentrer sur ses activités au lieu de.
Ouais, les briques. Je crois qu'ils font des briques.
Je dis ça, et en même temps, on va voir qu'Universal, c'est exactement le contraire. Donc voilà. Il y aura pas de parc. Je dis ça pourquoi ? Parce que oui, en fait, Epic Universe. Oui, je pense que c'est quand même assez avancé pour qu'on puisse considérer que c'est un projet qui est.
Bah oui, quand même.
Un petit peu plus qu'une simple rumeur, quoi. Je veux dire, là, c'est du dur, quoi. C'est de la construction. Par contre. On va avancer un petit peu et on va vous parler de 2 projets qui ont été annoncés par Universal il y a quelque chose comme un mois. On parlait de trucs disruptifs, et bien ces 2 projets sont complètement disruptifs. Je reviens sur ma définition franco-française, hein, c'est arrivé là où on ne t'attend pas. Dans le même communiqué presse ou presque, Universal a annoncé qu'ils allaient ouvrir un parc d'attractions au Texas et un événement Halloween à l'année. À Las Vegas. Alors, on va commencer par vous parler du parc du Texas. Ce sera dans la ville de Frisco, au Texas.
Attends, je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire de la scie sauteuse. J'ai l'impression d'année. Mais je te corrige. On m'entend un petit peu de loin, mais je continue. Et pas de disruption, justement, ce podcast. On est en live. tu as dit Halloween, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est pas vraiment Halloween, c'est un truc horrifique, mais pas sur
c'est
le
vrai.
Thème d'Halloween.
C'est vrai.
Si, bon,
tu fais bien de me reprendre.
Ouais.
Donc Frisco. Alors je ne sais pas chez vous, mais en tout cas en Belgique, un Frisco, c'était une sorte de Magnum cheap qui avait vraiment pas de goût.
Ah bon ?
Ouais, mais il y a très longtemps.
Les Magnum la glace ?
Ouais.
D'accord.
Un Frisco quoi. Ouais, je crois que c'était bon, ça devait
Et
être
bah...
la. Mais c'était vraiment dégueulasse. Bon, alors donc là on parle pas de la glace dégueulasse, on parle d'une ville au Texas qui s'appelle Frisco. Qui est à peu près au centre sud du Texas.
On voit très bien. Ouais.
Donc finalement en bas au milieu des States. Puisque
ça.
Finalement Universal, ils ont un parc sur les deux côtes, la côte ouest, la côte est. Et donc là en fait ce qu'ils vont faire c'est ouvrir un parc orienté famille et enfants. Alors les enfants, ils tablent. En fait, c'est assez documenté déjà parce que ils sont déjà en pourparlers assez avancés avec la ville de Frisco pour établir le truc. Et donc dans ces documents, mais on trouve pas mal d'informations sur le projet, la cible, etc. Et donc eux, ils vont viser un public familial, surtout les enfants de 3 à 9 ans. C'est assez spécifique.
C'est très précis, ouais.
Universal a annoncé dans ses documents que la superficie de ce parc, qui en fait tranche vraiment avec ce que fait habituellement Universal, parce que en fait, on en parlait au début de l'épisode, les parcs Universal, si tu les compares aux parcs Disney, sont quand même très orientés jeunes adultes, peut-être même ados, ouais. Adultes. Ados, mais les enfants, c'est peut-être le segment qui est le moins servi.
Exploité.
Dans les parcs Universal. Ouais. C'est pas qu'il y a rien, mais c'est qu'il y a beaucoup d'attractions pour adultes. Mais donc là, voilà, Universal se lance sur un parc vraiment orienté famille-enfant, un petit peu sur les modèles de Toverland et Plopsaland. Si on peut comparer ça, c'est pas exactement comparable. Parce que Universal, c'est
mais
un gros
ce qui est intéressant, c'est que. Ouais, ouais, ces chiffres-là, là, 3 à 9 ans, c'est marrant parce que c'est un truc que tu m'as filé tout à l'heure pour que je prépare. Et c'est le maire, en fait, de la ville de Frisco qui a donné toutes ces infos-là. Donc c'est intéressant déjà que ce soit le maire et non pas la ville, et non pas la boîte, je veux dire, enfin Universal, ouais. Qui annonce tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un espèce d'aspect, genre, j'ai envie de rassurer mes habitants parce qu'il insistait beaucoup sur le fait que. Il n'y allait pas avoir d'événements trop tard le soir, que ça allait fermer à 20h, sauf cas exceptionnel, ouais. Jusqu'à 22h. Pas de feu d'artifice. Et il dissuadait même presque, j'ai l'impression, les adultes et les ados de venir en disant c'est vraiment 3 à 9 ans. Mmh. Les adultes et les familles sont les bienvenus, mais il n'y aura aucun ride fait pour adultes. Il y avait une espèce de presque un ton du genre ne tentez pas le coup si vous êtes des adultes, genre vous allez être déçus, ou alors pas fait pour vous, quoi, en tout cas. Donc c'est peut-être un truc un peu conservateur, ou alors peut-être qu'il avait eu des résistances un peu tu vois au sein de sa ville. J'ai l'impression que la tournure des phrases qu'il prenait, etc., avait l'air un petit peu rassurante, tu vois, de dire attention, c'est pas un parc qui va vous faire
des artifices tous les soirs. C'est pas un mastodonte qui va faire qui va ramener des centaines des
c'est
dizaines
plus un centre un centre aéré géant
Mais alors, justement, Universal, enfin les documents qui ont été déposés par le maire parlent d'un parc qui fait à peu près un quart de la taille d'un parc Universal habituel, qui serait doté d'un hôtel, qui sur le concept art se trouve à l'entrée du parc, un peu comme le Disneyland Hotel chez nous. Il parle de 7500 visiteurs par jour pour les jours de la semaine et 20 000 visiteurs par jour les jours de week-end, ce qui nous fait un total de c'est ce qu'ils espèrent, ou c'est ce qu'ils attendent plutôt, de 3,4 millions de visiteurs par an, ce qui est quand même assez loin des chiffres des parcs Universal, hein, là où on est quand même sur plutôt deux chiffres, quoi. On doit être dans les...
Les 7500 par jour, je m'en rends pas compte, ça a pas l'air beaucoup comme ça par rapport à un parc, je sais pas, un parc attraction de taille moyenne français. Tu connais, toi, un peu ces chiffres-là ou pas? J'ai l'impression que c'est vraiment peu. Mais tu ne sais pas, tu peux
non,
dire
si,
que
si,
tu
non,
ne sais
mais
pas.
En fait, j'ai des chiffres en tête de quand je travaillais à Walibi, mais ça remonte à il y a 20 ans, quoi. Donc je me souviens que une journée où on faisait 20...
Parce qu'il faut rappeler que tu as 70 ans. Donc...
Tout à fait.
Ouais.
Ici on dit. Ouais. Donc moi je me souviens qu'un jour on avait fait une journée à 25 000 personnes. C'était le dernier week-end de la première saison d'Halloween. C'était blindé, mais tu ne bougeais plus dans le parc. Là c'était 25 000 à Walibi, c'était énorme. Mais je trouve que c'est même pas exactement comparable, puisque là on parle d'un parc qui a vraiment pas les mêmes ambitions qu'un parc comme Walibi, parce que déjà la cible elle est coupée en deux. C'est vraiment, ouais, on devrait essayer de regarder les chiffres de fréquentation d'un truc comme Toverland aux Pays-Bas.
La cible coupée en deux, oui mais non, parce que c'est-à-dire que si les gens viennent en famille, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des familles, donc ça fait quand même plus de personnes, c'est-à-dire que pas de couple, pas de bande de potes qui viennent à 2-3, enfin tu vois, ça peut vite être des familles de 4-5 personnes, tu vois, si elles ont des enfants en bas âge.
Est un peu aliénante, c'est un grand mot, tu vois, mais oui, il y aura des adultes, mais ils viennent pour les enfants, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense
Oui.
Mais alors, justement, tu m'emmènes peut-être sur le une des, enfin, des questions que je me posais, mais on peut en parler maintenant. En fait, on voit que ces parcs d'attractions qui commencent comme un truc axé sur les familles avec enfants, les petits-enfants et tout, finalement, il y en a pas mal qui à un moment, veulent continuer d'attirer plus de monde, de faire plus de chiffres, de s'étendre, de continuer de se développer, et ils shiftent en rajoutant des cibles adolescentes, etc. On l'a vu, je reprends ces exemples-là, parce que c'est vraiment ces trucs-là, hein, Plopsaland, en Belgique, c'est des parcs qui sont très 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 familiaux, leurs IP ne sont que des trucs pour enfants qui passent à la télé, et puis à un moment, ils ont construit un coaster Anubis pour attirer les adolescents, et puis 10 ans plus tard, ils en rajoutent avec Ride to Happiness pour continuer d'attirer un peu plus les adolescents, et Toverland, c'est la même chose aux Pays-Bas, où c'était un parc indoor familial qui a grandi, puis un jour ils ont rajouté un petit roller coaster un peu plus péchu qui ressemble un peu aux motos de Tron, et puis récemment ils se sont vraiment agrandis avec un wing coaster, je sais pas si tu vois la grande zone à Toverland avec comment ça s'appelle, un wing, je crois que c'est un wing coaster, une zone un peu médiévale, Merlin machin, je sais pas quoi. Mais donc voilà, tout ça pour dire que ces parcs, en fait, est-ce que c'est pas le but peut-être à terme de faire s'agrandir ce parc qui commence comme un parc pour enfants, pour tester un nouveau marché, parce qu'évidemment, pour un groupe comme Universal, je pense que c'est peut-être un peu audacieux de leur part de se dire qu'ils vont construire un nouveau complexe sur les bases de ce qu'ils savent faire d'habitude, avec Jurassic Park, le Wizarding World, machin, et enfin, ça... Ben voilà, je sais pas. Je sais pas, hein. Si ça se trouve, ça restera un truc pour enfants.
Il y a deux... Il y a deux zones d'expansion, on le voit déjà sur le truc, hein, ils l'ont annoncé, donc voilà, en haut à droite et à gauche, il y a deux zones qui sont vraiment faites pour ça. Donc à voir, après c'est un marché qui est à mon avis suffisamment grand pour tu vois, pour avoir son propre parc. Voilà, surtout si aux États-Unis les gens viennent d'assez loin, et des États voisins, etc. pour un truc comme ça, écoute, ça peut aussi très bien rester sur cette cible-là des petits-enfants.
Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'Universal voyait ce parc plutôt comme un produit d'appel, donc c'est-à-dire d'aller séduire une clientèle locale avec la marque Universal et ses IP, pour les gens qui ont été conquis par ce truc qui est pas loin de chez eux, se disent « Putain, en fait, on va passer à la vitesse supérieure pour nos vacances et on va aller booker un trip à Universal Orlando, quoi. »
C'est comme les clopes, il faut les faire commencer jeunes, et puis après, comme ça, ils continuent.
Alors, dans ce parc, il y a alors, il n'y a pas de nom qui a été attribué à ce parc pour l'instant, mais il y a quand même un concept art qui est sorti avec le dossier de presse. On voit quand même beaucoup d'IP DreamWorks. On voit également un petit peu de Jurassic World, mais je crois que c'est plutôt il y a une sorte de dessin animé Jurassic World sur Netflix, Camp Jurassic, je crois que c'est.
Oui, je ne l'ai pas regardé, mais j'avais vu une bande-annonce,
On voit également la licence Trolls, la licence Shrek et la licence M Madagascar. Donc beaucoup de DreamWorks, ce qui fait sens, puisque finalement le rachat de DreamWorks par Universal n'est pas si vieux que ça. Je n'ai pas la date en tête, mais... c'est pas si vieux que ça. Et donc, je pense qu'Universal a vraiment envie de tabler sur ses IP à mort. On voit beaucoup de flat rides. On voit, a priori, il n'y a pas de dark ride annoncé. D'ailleurs, ça, c'était un truc qui était dans les documents du maire. Il disait il n'y aura pas de feu d'artifice.
Pas qu'il n'est pas annoncé. Ils ont dit qu'il n'y en aura pas. Ils ont annoncé qu'il n'y en aura pas.
Voilà. Ouais. Sachez-le.
Il n'y en aura pas. Et il y a une hauteur, maximum aussi pour.
Et il n'y aura pas de roller coaster pour les très très haut. Voilà, exactement.
Ouais. Ce qui est un peu bizarre, parce que pour les enfants, je veux dire, un dark ride, c'est cool aussi. Enfin, typiquement, It's a Small World, c'est un dark ride.
Ouais,
Et c'est...
Tu vois, il y a une grande promenade en bateau, et je ne serais pas surpris qu'il y ait des décors tout autour, un peu comme la croisière Epid Mace au parc Astérix, que tu connais bien.
D'accord. Oui. Il y a une croisière qui s'appelle croisière Epid Mace.
Mais toi, t'es jamais allé au parc Astérix?
Je suis allé comme toi, il y a 20 ans, quand j'avais 40 ans.
Attends, j'y retourne dans pas longtemps pour aller tester tout Toutatis.
Mais oui, on va préparer des épisodes un peu spéciaux, peut-être autour du parc Astérix. Stay tuned.
Yes.
Non, moi j'y suis allé il y a très longtemps, donc vraiment je ne me souviens plus de rien.
Mais il y a plein de jeux de mots, épis de maïs.
Mais est-ce qu'il y a vraiment des épis de maïs dans la truc du coup?
Appel à toutes les unités. Est-ce qu'il y a vraiment des épis de maïs dans Croisière Épis de Maïs? Louis a besoin de savoir.
Sinon, scandale.
Envoyez vos dons.
Envoyez vos
Mais je crois qu'Épis de Maïs, c'est le nom du gars, en fait. Hein.
De quel
Écoute,
gars
je te ferai un envoyé spécial sur place quand j'y vais dans 2 semaines.
Oui.
Parce que la France a le droit de savoir. Alors.
La France a le droit de savoir. En plus, il y a un nouvel album, je crois, qui sort très bientôt, d'Astérix.
Il y a toujours un nouvel album. Machine à fric.
Bah, c'est tous les ans. Ouais, le Griffon d'Or, je crois, quelque chose comme ça.
Hein
le ouais. Griffon d'Or, il me semble.
C'est
Alors
pas
moi, de toute façon,
je pensais qu'un Griffon d'Or, c'était un truc inventé par tu sais qui.
Ah, non, alors c'est le Griffon, pas le Griffon d'Or, juste bon. Le Griffon. J'ai un petit peu extrapolé.
Tiens, et donc, ce qui est tout à fait noticeable, c'est aussi la fameuse poule aux œufs d'or de Universal. À savoir,
il est sorti
Harry
en 2021.
Potter n'est pas listé sur ce parc familial qu'il y aurait à Frisco, de quelque façon que ce soit.
Bah, c'est pas. Oui, c'est pas pour les 3-9 ans, Harry Potter.
Ah, mais putain, attends, est-ce que t'as des gamins ou des gamines qui ont 7-9 ans dans ta famille? Mais elles sont. Mais. Ce qui est fou, c'est que ces films ont 10 ans. Et les bouquins encore plus. Et ils sont. Je trouve qu'il y a une deuxième vie à toute cette franchise.
Okay.
Qui est en train de se... ouais, c'est très.
Mais via les nouveaux, via les trucs, comment t'appelles ça, les animaux fantastiques ou directement
non,
les.
Non,
les
en gros, j'allais dire les DVD, mais non, c'est plutôt les films qui sont sur les plateformes et tout ça. En fait, c'est des films qui sont vachement regardés.
Okay.
Je crois, les parents les regardent avec leurs enfants et tout, ça, voilà, tu vois.
Ouais.
Il y a un truc.
Bah oui.
Un
et alors, Astérix et le Griffon, parce que tu sais que je déteste les fake news. Astérix et le Griffon, c'était le dernier album. Il est sorti en 2021. Oui, mais il y en a qui aiment ça, tu sais. Donc, c'était le dernier album, donc il est déjà sorti. Le prochain, je ne sais pas comment il s'appelle. Bref, ça n'est pas le sujet.
Ce n'est pas du tout le sujet.
Ce n'est pas tout le sujet, puisque Universal ne détient pas encore Astérix, même s'il nous l'envie, évidemment.
Le monde entier.
Le monde entier. Allez voir mon épisode de Parcéologie sur Floralix, qui était un parc Astérix préexistant au parc Astérix actuel. Et donc voilà, il y a eu un parc Astérix avant le parc Astérix.
Dis-nous un peu l'époque pour que les gens se disent quoi.
C'était dans les années 70, donc
voilà.
C'est pas non plus il y a 1000 ans. Mais voilà, c'était un parc Astérix qui a existé de manière temporaire pendant, je crois, 6 mois, si je me souviens bien. C'était une vidéo qui date un peu. Mais avec des choses complètement fofolles qui s'y passaient. Donc allez checker ça.
Yes. Donc là, on a un peu fait le tour de ce parc, qui dit family friendly park qui ouvrira à.
Et toujours pas de nom alors pour ce parc-là.
Mais toujours pas, je veux dire, ils l'ont juste annoncé, quoi. Mais.
Oui, mais ils auraient pu. Ouais.
Mais donc là, voilà, on est encore au stade des pourparlers avec les autorités locales. Je sais qu'il y avait des audiences, une consultation, voilà, des citoyens. Pour savoir ce qu'ils en pensent, et puis s'asseoir sur ce qu'ils en pensent, comme ça se fait. Quelque chose à rajouter sur ce petit parc Frisco? J'espère qu'ils vendront des Frisco, une petite glace dégueulasse.
Mais oui, écoute, non, je trouve que c'est intéressant, effectivement, comme concept, très, très restreint en termes de cible, mais pourquoi pas.
Je pense que ça pourrait vraiment marcher. Ça me rappelle un petit peu cette époque de la fin des années 90, début des années 2000, où Disney souhaitait aussi sortir de ses parcs pour proposer des expériences urbaines, ça doit te parler. Et ça avait porté le nom de Disney Quest. C'était des espèces de trucs dans des bâtiments sur 5 étages avec des expériences très en avance sur leur temps, en VR, en 3D, en truc machin.
Eh oui.
Très ancré dans son époque, donc si tu regardes des photos de ce truc-là aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Mais je pense que l'idée, c'est un petit peu, voilà, d'aller toucher une clientèle plus locale qui est peut-être pas convaincue de se dire tiens, je vais aller prendre l'avion pour aller à Orlando passer 4 jours.
Ouais.
C'est un produit d'appel. Je trouve ça, en tout cas, je pense que personne n'avait vu venir une annonce pareille. Et Louis. Une autre annonce que personne n'a vu venir, c'est bien celle du parc.
Non. À l'opposé.
On part de Frisco à Vegas. Mon chat est en train
Autre salle, autre ambiance.
Ouais,
qu'est-ce qui se passe, ton chat?
Mon chat se met dans des sacs Ikea. Voilà, c'est cette passion, sac Ikea. Je sais pas si.
Je crois que c'est un truc assez commun pour les chats, non? Peut-être de se mettre dans.
Ouais, elle a aucune personnalité.
C'est pas ce que je voulais dire, Guillaume.
Bon, alors on va oui, de Frisco
là,
à Las Vegas.
Las Vegas, la cité du vice, la chanson de Taylor Swift.
Ah
non,
bon
c'est Katy Perry.
Get up and
na 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 na. That's what you get for waking up in Vegas.
Quoi?
Et,
c'est la seule chanson de Katy Perry qui n'est pas connue. Hein?
Ah, c'est la meilleure, c'est la seule que je connaisse. C'est... Donc, tu vois, moi, je suis
waking
l'inverse.
Waking up in Vegas. Putain, là, c'est moi qui ai besoin de googler.
Elle est géniale cette chanson. Waking Up in Vegas.
On se rend compte que c'est pas Katy Perry, en fait c'est Cascada. Désolé.
Non, c'est Katy Perry. Il y a eu quand même un clip, donc c'est, elle est
From
pas
Paris
si méconnue que ça. 2009, tu vois, ça date d'hier. Donc.
Oui. Et ça s'appelle.
C'est la seule chanson que je connaisse. Et ben ça s'appelle Waking Up in Vegas.
Mais de toute la discographie de Katy Perry. Écoute,
Écoute, tu l'écouteras en boucle,
oui,
après tu
ça.
Me remercieras.
Ouais, ouais, sûrement. Donc on va à Vegas, et là, Universal a quasiment dans le même dossier de presse annoncé la création d'un autre... Ah oui, cette fois, ce n'est pas un parc. D'où le changement de
alors
nom.
Alors qu'est-ce ?
Eh bien, c'est une expérience qui sera... Oh, comment expliquer ça ? Vous voyez le concept des fameuses expériences Halloween d'Universal qui s'appelle Universal... Horror Nights, qui sont en fait...
Et si vous ne savez pas, vous avez au moins deux épisodes à rattraper, avec notre ami Seb Ganser, qui a été...
qui a fait toutes les haunted house possibles partout
oui.
dans le monde. Quoi.
Et qui nous parle aussi d'Universal, qui sont effectivement très connus pour leur saison d'Halloween.
Absolument. Et en fait, ça marche tellement, tellement, qu'ils se sont dit, pourquoi ne pas faire... ne pas proposer à Las Vegas, à Las Vegas, des labyrinthes d'horreur type Halloween, mais à l'année. C'est-à-dire que là où dans les parcs Universal et à Walibi et au parc Astérix, vous pouvez retrouver ces types de labyrinthes horribles pendant un mois et demi, et ben là, ils se sont dit, on va faire un endroit où ce sera un peu, je vais pas dire Halloween, mais en tout cas des expériences horrifiques à l'année. Alors, pour ceux...
Horrifique.
En fait. C'est pas
horrifique. Que... Et tu sais ce que je vais dire, Guillaume?
Non.
Tu sais ce que je vais faire comme petite digression
pas
à
du
ce
tout.
Moment-là?
Je ne sais pas.
Un truc à l'année qui normalement se passe que de manière périodique.
C'est annuel.
Ça te fait penser à rien?
Un truc annuel.
Non, mais c'est un autre truc qui a fait ça aussi chez Disney.
Un truc qui se passe à l'année? Les anniversaires.
Oui,
ça
un truc. Non.
Bah, si.
Non, on y est presque.
Ça, c'est sur deux ans.
Non, aux États-Unis,
ouais,
tu le sais,
ans,
tu le sais, on
le
a
sais.
Déjà parlé.
Ok.
À Disney,
vas-y,
comment ça s'appelait? C'était
chaud,
à Disney Spring. Avant,
ouais.
Ça s'appelait comment
Disney
Spring?
Downtown Disney.
Ah!
Downtown
Disney. Qu'est-ce qui se passait? Ah!
Tous les
voilà,
soirs, on pouvait fêter le 31 décembre.
Exactement.
Tous les soirs de l'année. Chose que moi,
le
même,
nouvel
une fois
an,
par an, je n'ai même pas envie
tous
de le faire
soirs.
Une fois par an. Je m'enferme chez moi. Mais donc.
Eh bien, moi, j'ai trouvé ce concept absolument génial. Le countdown, voilà, le décompte tous les soirs, c'était le nouvel an au Disney, au Downtown Disney.
Mais
ils ont arrêté ça déjà il y a pas mal de temps.
La question
qu'ils
n'ont
voilà,
pas trouvé de réponse,
principe.
C'est le faisait-il seulement à minuit ou plusieurs fois par soir, comme la messe de minuit le soir de Noël dans les églises. C'est-à-dire il y en a une à 18 parce que les gamins devaient se coucher plus tard, et il y a celle de minuit pour les croyants hardcore, tu vois.
Non, je crois que c'était quand même réellement à minuit.
Tu crois ou
il me semble.
Okay.
Oh, tu vois quoi.
Nos équipes de fact-checkers s'en occuperont s'ils y pensent ce soir. Alors, donc, on est à Las Vegas sur une expérience qui porte en tout cas un nom annoncé par Universal. Universal.
Ah, on a un nom.
Horror Unleashed. Que Louis va répéter avec un accent plus sympa que le mien.
L'horreur
lâchée. Là, on dirait que c'est Universal Canada, Universal Québec. L'horreur universelle est lâchée.
Surtout qu'il faut le dire avec un accent. Ah non, pas texan, on est un accent. On est à Las Vegas. Je ne connais
un accent du Parti républicain, peut-être.
Du Nevada, ouais.
Alors.
Donc.
Ce qui est intéressant,
Unleashed, pour, c'est très, ça fait très, tu sais, ça fait très nom de jeu vidéo, là, à chaque fois, ils sortent des trucs oui. genre Need for Zombie, Speed Unleashed.
Ouais.
Alors, quand ils savent pas quoi mettre, ils mettent ça.
Figurez-vous, à quoi ça va ressembler, ce qui est annoncé par Universal, c'est qu'ils vont prendre possession d'un énorme hangar. Un hangar qui,
Ils en prennent possession. Voilà. Il est là,
non, est-ce qu'ils vont le construire ou pas? Je n'ai pas, je n'ai pas été sur place pour vérifier les faits. Mais donc, en tout cas, tout se passera dans un bâtiment. Et un bâtiment oui. qui fera partie du complexe Area 15. Complexe très très D'accord. cool puisque c'est un endroit de
pas
Las Vegas.
Pas 51.
Pas du tout.
15. Ouais. Très différent.
Ben, je crois que c'est ça le, tu vois le,
tu vois le, voilà. Tu crois?
Ouais, à mon avis, okay. c'est ça. La zone.
Ils ont été
c'est comme si en français on disait pas la zone 51, mais la zone 15.
Oui, mais nous, en France, on n'a pas, alors ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qu'on a comme zone secrète en France?
Focus, Louis.
On a
Focus,
du Carac. Ouais.
Quoi? Kézak?
Non, Bucarac, tu te souviens pas la fin du monde là en 2000, c'était quoi, c'était en 2001
de, moi 2012, je viens de Belgique, hein, votre truc de fin du monde en France, c'était pas Corraban ça.
Ouais.
2001, 2000.
Ah, pas Corraban, c'était l'an 2000, ouais.
En tout cas,
bon bref.
Il était à côté de la plaque.
Donc c'est un truc qui existe déjà?
C'est un truc qui est existant qui propose en fait déjà des expériences immersives dont une qu'on rêve, toi et moi, de visiter, c'est le fameux Omega Mart de Mio Wolf. Je crois qu'on en avait parlé dans notre épisode avec Vincent du site Funfair City,
ouais.
où on parlait des attractions Exactement. Qui s'échappent des parcs, et on a de plus en plus des expériences. Alors, Mio Wolf, c'est un concept américain qui est dans plusieurs villes où, en fait, c'est des expériences immersives. Omega Mart, c'est une sorte de supermarché dans lequel...
C'est plus, déjà, il faut dire que c'est créé par... Enfin, c'est créé par... un collectif d'artistes, donc c'est pas vraiment un, enfin c'est une expérience de divertissement, mais qui est quand même qui a un aspect très artistique.
Il y a un petit côté arti-farti effectivement.
Il y a un petit comme un peu arti. Et donc effectivement ce gros mall, c'est un mall en fait voilà entièrement factice avec que des articles bidons, avec soit des noms exagérés, des un petit peu une satire
alors,
de la société de consommation.
Ce que j'ai compris beaucoup plus récemment. Et la semaine dernière, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est que Omega Mart, donc c'est un, comme tu le dis, c'est un supermarché un peu en mode années 80, un peu bizarre et tout ça. Mais en fait, il y a un petit côté escape game dedans, mais vaguement, puisqu'en fait, tu avances au gré de tes découvertes dans le Omega Mart. C'est-à-dire que il y a vraiment des vrais rayons, sauf qu'à la place des boîtes de Kellogg's et des marques existantes, ils ont créé tous les produits et créé toutes les marques existent. Enfin, de A à Z. Donc par exemple, tu prends une boîte de conserve et tu regardes l'étiquette et en fait l'étiquette te dit allez voir par là dans le au rayon surgelé et en fait quand tu ouvres la porte des rayons sur tu vois du truc surgelé, eh bien en fait c'est une porte qui te donne accès à une autre salle et ainsi de suite et ainsi de suite.
Incroyable.
Et ainsi de suite. Super, mais ça a l'air vraiment dingue.
Et ben c'est encore mieux que ce que je ne pensais alors donc
ouais. C'est un peu une histoire dont tu es le héros si tu as envie de chercher quoi. Donc ça a l'air vraiment excellent. Je pense
mais attends,
qu'il y
avait... Universal, ils ont rien à voir avec
alors,
ça. Donc ils squattent à côté, ils font quoi?
Exactement. Area 15, c'est un coin de Las Vegas où il y a des expériences de ce genre-là. Donc Omega Mart en est un, mais il y en a d'autres. Et Universal va rejoindre ce concept d'expérience immersive pour y ajouter ce Universal Horror Unleashed, où en fait il y aura Universal annonce la possibilité de mettre à l'année 3 labyrinthe horrifique de la même taille que ceux qui peuvent proposer dans les parcs américains pendant Halloween.
Yes. Donc okay. C'est-à-dire grand, j'imagine.
Là, c'est très très grand, plus toujours sous le même toit des expériences de merch et food et beverage. Et puis évidemment, parce que
faut... Oui, parce que maintenant on ne va plus au restaurant, on vit une expérience food. C'est quand même autre chose.
Est-ce que tu te souviens du fooding au début des années 2000? Ça te dit quelque chose, le mot fooding?
Le guide du fooding, tout ça.
Si vous étiez là, ça c'était le plus grand bullshit. C'est juste pour dire, tu peux manger trois bouchées avec des gens qui se la racontent. Voilà.
Ça a été un peu remplacé par bistronomique maintenant. On dit beaucoup bistronomique. Donc c'est très fourre-tout aussi. C'est entre le bistro et le gastronomique. Donc c'est une palette très très large.
On salue Itrénaline d'ailleurs à ce sujet.
Mais oui, Itrénaline, envoyez-nous vos invites. On attend tous les matins. Je regarde ma boîte aux lettres, les yeux mouillés de larmes.
Et par exemple, Itrénaline aurait tout à fait sa place dans ce concept de Area 15 ouais. que va rejoindre Universal. Alors, on a dit 3 Horror Mazes. Et alors,
donc 3 différents, d'accord.
Ouais, et Universal a quand même lâché le nom des Classic Monsters, donc, dont on parlait tout à l'heure.
D'accord, ouais.
Il faut dire que Universal a une créativité absolument dingo sur, en ce qui concerne les mazes d'Halloween, puisque ils en ont même fait une sur Stranger Things, une licence assez récente et très plébiscitée. Il y a eu un horror maze sur l'artiste américain The Weeknd, qui n'est pas du tout une franchise cinéma, c'est pas du tout un truc de télé, c'est enfin je trouve ça voilà, c'est très très
mais il a un délire un peu horreur The Weeknd ou pas, je connais pas hyper
dans
bien
ses derniers c'est albums, il y a eu un truc un peu de chirurgie qui a mal tourné dans son concept album, ouais, effectivement.
Ah, OK.
Très bien. Il y a quand même un petit rapport à l'horreur, mais je trouve que c'est de nouveau, tu vois, on parlait de trucs disruptifs où Universal va chercher les trucs là où on les attend pas, mais typiquement d'aller chercher The Weeknd pour faire un labyrinthe d'Halloween sur un artiste musical, fallait y penser. Et avant, en fait, ça c'est la première fois qu'ils l'ont réellement fait, je crois, mais en fait il était question en 2020, et ça a sauté à cause du Covid, de faire le même genre de truc avec l'artiste Billie Eilish, qui a aussi développé tout un univers assez assez néo-gore, comme, enfin néo-gothique. Et ça, malheureusement...
Tu dis néo-gore, moi je dis pseudo-emo, parce que en tant que... Emo Kid, les vrais des années 2000, et bah Billie Eilish elle nous a tout pompé, tu vois mon gars.
Elle t'a tout pompé ton style, voilà ce qu'elle a fait Billie Eilish.
Eh oui, voilà, voilà.
Mais non, voilà.
Non, c'est cool ces partenariats, ouais.
Excitant quand tu vois que ça peut vraiment partir dans tous les sens maintenant, Universal, ce qu'ils font. Et alors, on parlait peut-être même, en fait, de faire de cet endroit qui sera donc un endroit où tu peux avoir des labyrinthes permanents à l'année, en fait, peut-être un endroit où Universal pourrait tout simplement recycler les labyrinthes qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et dont ils vont plus servir dans les parcs américains, parce que c'est quand même... Enfin, je sais pas si t'es déjà allé dedans, mais c'est du gros œuvre, hein, les labyrinthes là-bas, tu pourrais pas
mais
croire
non, je me rends
que,
pas
c'est,
compte.
Que c'est du temporaire, quoi.
Il faut que je me fasse un petit on-ride, comme on dit, ouais. Ou plutôt un POV, du coup, parce que en fait, on en parle beaucoup et je crois que je me rends pas compte de l'échelle et du travail qui est investi là-dedans.
C'est zinzin.
Donc
échelle zinzin.
Et voilà. Très bien. Et si c'est zinzin, je vais zinziner. Est-ce qu'il y en a un en tête, du coup, quoi, peut-être à conseiller aussi à nos
un labyrinthe d'Universal.
Ouais, je sais pas un truc qui est devenu peut-être un peu mythique ou. Je tape.
Mais c'est-à-dire que un truc mythique dur à dire parce qu'en fait ces trucs-là sont temporaires, durant général ça tourne pendant 3 ans et puis ils passent à autre chose. Mais je pense que il y en a un qui est là depuis très longtemps, c'est Clowns from Outer Space ou un truc comme ça. Les clowns, bon, je sais pas.
Bon, je regarde en tout cas, ça va être chouette.
En tout cas, un que j'aurais bien kiffé faire, c'est Stranger Things, typiquement.
Voilà. Ouais, avec bah Stranger démos, Things, carrément. Dis donc, on en est où, là? Il y a une dernière saison qui arrive, non, normalement? Je me souviens plus,
Peut-être, tu peux te faire une confidence?
Oui. Est-ce que je n'ai pas regardé? Oh là là là.
J'ai regardé 2 épisodes de Stranger Things.
Oh, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, Guillaume?
Je regardais Stranger Things. Je regardais RuPaul's Drag Race, voilà. Je ne fais plus que ça. Il y a toutes les versions.
Ouais, mais il n'y a pas... Si, c'est vrai qu'il y a pourtant 1000 saisons de ce truc-là, non?
Pourquoi pas cet IP dans les parcs Universal, Drag Race?
Ben oui.
Tu vois? Oui. On avait le Blue Man Group.
Et tu crois pas si bien dire parce que ça fait tellement peur aux républicains qu'ils veulent l'interdire.
Ah oui, c'est vrai parce que les républicains pensent que les drag shows c'est plus dangereux que le fait de porter un gun.
Bon. Que les guns. Ouais, exactement.
On s'écarte, non?
Oui.
Alors, on va reprendre le fil conducteur. On a parlé de ce que Universal était en train de construire activement, Epic Universe. Ensuite, on s'est dirigé vers ce que Universal a annoncé à Frisco, au Texas et à Vegas.
Donc, deux trucs complètement différents. C'est intéressant quand même de voir aussi qu'ils ont fait un truc vraiment pour les gosses et un truc bah, clairement pour les adultes. Donc, il y a un plus grand écart.
Et là, on va se diriger... De plus, donc tu vois, on va de concret à hypothétique à complètement gossip. Donc, on va reparler d'un dossier qui est chaud bouillant en ce moment, Mais on va voir si c'est bien, si c'est bien, si on a, si on a, si on a raison d'être chaud là-dessus, puisque il y a depuis quelques mois des rumeurs, des gossips, de la spéculation sur un hypothétique retour des parcs Universal en Europe. Louis, figure-toi.
Mais non.
Et on se souvient que Universal avait fait une petite encartade. Comment tu qualifierais ça en Europe?
Mais je savais pas justement, c'est pour ça que je le disais en début d'épisode, j'ai été étonné de voir le titre de la vidéo que tu m'as envoyé qui était justement le retour d'Universal point d'interrogation, donc je ne savais pas que c'était un retour. Ça a duré quand même quelques années, hein. C'était pas, donc disons-le clairement,
c'était de
1998
à 2004. Il se trouve que Universal a fait partie de l'actionnariat de Port Aventura, pas loin de Barcelone, en Espagne. Et donc, concrètement, ça avait donné quoi? Parce que Port Aventura, je crois que c'est un parc qui a ouvert en 95, 94, un truc comme ça.
Donc c'était juste après, en fait. Enfin, pas longtemps après, en tout
cas. Ouais. Et donc, Universal était monté dans l'actionnariat, donc ça avait donné lieu à des attractions, pas tellement sur le cinéma, mais Universal Creative, la cellule qui développe les attractions Universal, avait participé à la conception de certaines attractions. Si je me souviens bien, il y avait Templo del Fuego, qui encore aujourd'hui est une sorte, qui est encore très très plébiscité, mais pas souvent ouvert. C'est une sorte de truc. Un peu un spectacle avec un spectacle avec de l'eau, du feu, tu vois, un peu comme Armageddon, mais en mode temps plein cas, tu vois le genre.
Je vois déjà, ouais. Je crois qu'Armageddon t'es, ouais, même en tant que truc pas calme, était pas tellement aimé pour ça, mais bon.
Ouais, je sais pas comment le décrire. Et il y avait aussi un truc sur une sorte de sous-marin, simulation de sous-marin, je crois. Et puis finalement, un petit tour et puis s'en va. Universal en 2004, c'était une période un peu compliquée pour le groupe.
Mais il faut dire que ça avait ce nom. Ils étaient actionnaires, mais donc le parc avait ce nom de Universal Méditerranée.
Universal Méditerranée. Et puis je crois que ça a changé aussi un moment sur Universal Port Aventura ou
il y a eu plusieurs itérations du truc, mais Universal était dans le nom pendant quelques temps, ouais.
Tout à fait. Et puis ils sont repartis. Du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, certains coins des internets sont en ébullition parce que apparemment il y aurait des indices, Louis, figure-toi, qui indiqueraient le retour d'Universal en Europe. Alors, on va le voir. Il y a des indices qui sont plus ou moins
concordants.
Alors, il y en a qui sont concordants, il y en a qui sont plausibles, et il y en a qui sont totalement fumants. Et j'ai envie de commencer par ceux-là.
Oui.
Ceux qui, pour nous, on n'a pas... Enfin, ça me semble un peu capillotracté de penser que ces indices qu'on va vous citer indiquent le retour d'Universal à Port Aventura. Ça me semble... Je sais pas où va cette phrase, Louis, je suis fatigué. Alors
ce que tu veux dire, c'est que, alors déjà, par où ça a commencé, d'après ce que j'ai compris, c'était des réservations de noms de domaine. Donc il y a eu des noms de domaine qui ont été réservés, notamment universalportaventura.es, ou enfin des trucs qui avaient l'air de laisser à penser que Universal achetait des noms de domaine. Parce que ça, c'est un truc qu'on peut vérifier, voilà, sur des sites, etc. Donc, évidemment, tout ça en anonyme, il y a pas plus d'infos que le fait que ces noms de domaine ont été achetés. Il y a eu un truc hébergé, un site un peu générique, mais les autres, le truc, c'est que, effectivement, déjà, on sait pas si ça a été réservé par Universal eux-mêmes, ou si ça peut être très bien quelqu'un, un individu lambda qui peut le faire précisément pour lancer des rumeurs ou pour ensuite, même
pour
si je crois
revendre,
que maintenant c'est interdit, hein, je crois que maintenant ça s'appelle du, je crois que maintenant si vraiment tu utilises un nom de marque déposé, en fait au début d'internet ça se faisait beaucoup, des gens qui achetaient plein de noms de domaine et qui ensuite les revendaient aux marques qui ça ça revenait un peu de droit. Je crois que maintenant il y a quand même des jurisprudences qui font que, et même dans les fautes de frappe, c'est-à-dire que je sais pas si tu tapes Décathlon et que tu vois à la place du L tu mets un K parce que c'est à côté sur le clavier et que tu bookes ce domaine là et que vraiment ton but c'est de te faire de l'argent sur le fait que les gens se trompent en tapant le truc, en gros voilà, t'as plus le droit,
c'est sanctionné par la loi.
c'est sanctionné par la loi parce que c'est vraiment on voit que c'est une utilisation malicieuse.
C'est franchement pas sympa, on peut le dire.
C'est pas.
C'est pas
donc
cool.
À voir, mais là. Si moi je voulais booker Universal pour Aventura.com aujourd'hui, je pense que ce serait quand même possible parce que s'ils font pas gaffe, si tu veux, c'est pas automatique hein, comme process. Donc voilà, si personne ne regarde, donc voilà. Donc déjà, on sait pas si c'est eux qui l'ont fait, mais je crois que ça a commencé comme ça. Et ensuite, effectivement, les gens ont commencé à essayer de chercher des indices partout. Donc c'est un peu comme voilà, comme quand on a une conclusion à une théorie. Alors du complot ou pas, mais en tout cas une théorie et qu'on a envie d'avoir un faisceau d'indices qui se dirige vers la même conclusion, on trouve toujours des trucs.
Absolument.
Et alors tu vas nous dire justement qu'est-ce qu'ils ont trouvé, parce que ça peut aller assez loin quoi.
Eh bien un des indices je trouve les plus fumants, c'est que on a aperçu, Louis, figure-toi, à Port Aventura, un caméraman, un mec qui était en train de filmer, un caméraman qui portait une casquette Universal. On l'a aperçu à Port Aventura.
Oh là là.
Donc si ça
c'est sûr.
Ça signe pas le retour officiel et explicite du retour d'Universal à Port Aventura. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. On a également vu un truc de nouveau que je trouve en fait qui manque un petit peu de précision. Depuis quelques mois, un logo Universal apparaît sur les gammes de merchandise vendues à Port Aventura. La question, c'est...
Sur les étiquettes, ouais.
Ouais, sur les étiquettes. Donc, t'achètes une casquette, et en fait, en dessous du code-barre, littéralement, depuis quelques mois, il y a un logo Universal. Le truc, c'est que, on n'a pas réussi à me répondre quand j'ai posé la question aux gens qui relayaient ces rumeurs, c'est que, est-ce que ce logo Universal apparaît sur des gammes de merch, de licences qui appartiennent à Universal?
Oui. Si t'achètes
une casquette Mario Bros, même si tu achètes à Port Aventura, il y aura un logo Nintendo dessus, sur l'étiquette.
Bien sûr.
Voilà. Donc, calmons-nous. On a également des fans locaux ont trouvé que l'indice suivant signait le retour d'Universal en Europe, et là, j'ai vraiment pas compris. Il se trouve que sur le design des petites cartes qui servent de passeport annuel à Port Aventura, avant, il y avait un logo Port Aventura, et aujourd'hui, il n'y a plus de logo. Il est juste écrit « passe annuel ». Je crois qu'il est écrit Port Aventura quelque part, tu vois, mais donc, bon, voilà. Ils ont dit, s'il n'y a plus de logo Port Aventura, c'est forcément qu'Universal
obligé
revient en Europe. Ouais. Bon, là, on a fait un peu le tour des indices que je qualifiais donc de fumants, puisque, je ne sais pas ce que tu en penses, Louis, mais moi, je te dis, il m'en faut plus.
Oui, mais en tout cas, la vidéo qu'on a regardée à ce sujet... précise, je sais pas les personnes qui ont elles-mêmes tweeté ou posté à ce propos-là si elles étaient très très assertives ou pas, mais c'était quand même des gens qui disaient voilà ce qu'on voit et c'est très très vague et on ne prenait pas ça pour preuve.
Oui,
mais je sais pas, il y en a qui y croient
si
peut-être
tu le dis,
beaucoup. Oui, si tu le dis.
Tu vois, c'est un peu regardez ouais. Ça en même temps on pense que non, mais le voilà quand même l'indice. Donc tu l'as bon.
Oui, non, bien sûr.
Un mec avec une casquette, probablement c'était un fan de parc qui avait une casquette Universal, tu vois.
Mais bien sûr.
Alors, néanmoins, là on a fait le tour des trucs un peu pas sûrs, et pourtant il y a quand même des indices un petit peu plus tangibles et qui là, je trouve, prêtent plus à débat. Par exemple, depuis des mois, en fait, on constate que y a pas mal de marques qui sont trademarkées, comment on dit, des dépôts de marques, des marques déposées.
Ouais, déposées, ouais.
Alors, elles sont déposées depuis le bureau espagnol qui s'occupe de ce genre de trucs, donc le bureau officiel du trademark en Espagne, pour un usage européen. Sur des marques qui concernent spécifiquement sur des marques qui sont utilisées par Universal dans ses parcs d'attractions pour un usage dans des parcs d'attractions. Donc c'est comme ça que c'est trademarké. C'est-à-dire, on a vu par exemple la marque Jurassic Park, la marque Jaws, donc les dents de la mer, Universal Horror Nights, un truc qui s'appelle Hollywoodland Universal Studio. Toutes ces marques ont été déposées ou mise à jour sur les sites du trademark espagnol pour un usage dans des parcs à thème sur le continent européen.
Et déjà ça, moi, ça m'embouche un coin parce que c'est dingue de savoir qu'il y a des gens qui vérifie justement les entrées de ces bureaux-là pour voir, enfin tu vois, pour confirmer ou infirmer des rumeurs et qui vérifie les trademarks un peu.
Attends,
en temps direct
toi,
pour savoir ce qui se fait.
Tu fais quoi de tes journées alors si tu fais pas ça?
Ben ouais, mais écoute, je sais pas si il y a des systèmes d'alerte, les mecs peut-être qui se disent, tu vois, comme des Google Alerts, qui disent dès qu'il y a une entrée universelle, tac, ça envoie un truc, ah ouais. Mais c'est, je trouve ça fou.
Écoute, dans les trucs trademarkés, il y avait également une marque de fringues et de boutiques, enfin, je sais pas, qu'on retrouve dans les parcs, dans les complexes City Walk et Universal, ça s'appelait Universal Universe, mais il manque un A, ou je sais pas, c'était quand même très spécifique. Donc là, c'est pour une gamme de merchandising typique des parcs Universal aux States, qui a été donc trademarké pour un usage sur le territoire européen, mais via le bureau espagnol. Je sais pas si c'est assez clair. Et un truc aussi intéressant, je vous en avais parlé tout à l'heure, du Universal's Helios Grand Hotel, qui était...
Oui, on se souvient que tu avais dit...
Souvenez-vous,
on en reparlera.
Ouais. Eh ben, je vous en reparle
maintenant.
Et
donc là, on en reparle.
Et voilà.
C'est maintenant.
C'était, tu vois?
Ouais, ouais. Ok.
Cet hôtel qui est en construction au fond du parc Epic Universe à Orlando, ben en fait, le nom a également été trademarké... comme je l'expliquais, pour un usage dans des parcs d'attractions en Europe, sur le territoire européen. Ce qui, en fait, si tu réfléchis bien et si on ne s'attarde que aux dépôts de marques qui ont été faits, oui, il passe par le bureau espagnol, mais c'est quand même pour un usage européen. Donc ça voudrait même pas nécessairement dire que c'est pour Port Aventura, quelque part.
Ouh, mais tu es en train de dire qu'ils sont en train de construire un parc à thème juste à côté de Disneyland Paris ? Est-ce que c'est ça que t'es en train de me dire, Guillaume ?
Ah ben alors.
Est-ce que le premier coup de pioche a été donné ? Est-ce que les terrains ont été sécurisés ?
Quand vous relayez toutes ces rumeurs, dites bien que ça vient de la file d'attente, hein, comme ça.
Oui,
c'est
nous.
Gagner des points de crédibilité.
Nous.
Non, parce que justement, il paraît. Et ça, je l'ai découvert vraiment parce que du coup, ça parlait un peu sur Internet. Il y avait des gens de la sphère francophone. Je me demande si c'est pas Valentin de Puissance Park qui parlait de ça aussi sur Twitter, qui disait que il y a encore des terrains qu'avaient acheté les studios Universal pour leur activité de studio et pas de parc d'attraction, des terrains du côté de Carré-Sénart à Paris.
Voilà. D'accord, je sais pas du tout où c'est. C'est quoi Carré-Sénart ?
Ben, c'est un carré à Sénart, quoi.
Mais c'est dans Paris ou c'est à côté?
C'est le Grand Paris. Paris,
oui,
sera toujours Paris.
Mais c'est
Paris.
Oui, c'est les grands. C'est pas
la Tour Eiffel, mais
Westfield, Carré, Sénart.
Paris.
D'accord.
Encore coaster, Paris.
Eh bien, écoute, on peut l'annoncer, je crois, dans la file d'attente aujourd'hui.
C'est officiel.
Universal revient au Carré, Sénart avec un parc à thème et notamment donc doté d'un hôtel. Appelé le Helios et avec du Jurassic Park dedans, je crois, si j'ai bien
oui, voilà,
tout suivi.
T'as bien résumé. Ouais. Non, mais c'est donc en fait, il y a et là, je crois qu'on part dans les spéculations plutôt pour le fun. Et donc il y a des terrains qui à Paris apparemment appartiennent toujours à Universal du côté de Paris. Mais donc
d'accord. Donc Carré-Sénart, je suis en train de regarder, c'est à côté de. Pas trop loin, c'est entre Paris et Melun. Mais c'est pas trop loin, oui, c'est dans le Val-de-Marne aussi, donc écoute, ouais.
Du coup, en fait, juste pour le sport des spéculations, en admettant que ça,
oui.
qu'Universal finisse par revenir en Europe, parce que quelque part, je peux pas imaginer, après avoir ouvert un parc en Chine, à Beijing en 2021, ils ont déjà une présence en Asie, à Tokyo et à Singapour. Donc je crois que pour l'Asie, ils ont ratissé, c'est bon.
C'est fait.
Les États-Unis, je pense que c'est installé et au Texas, il y a encore un truc et à Vegas, donc je crois que là c'est bon. Je pense que ils vont plus s'éterniser avant de revenir tôt ou tard en Europe quand tu vois la manne Afrique que c'est devenu depuis Harry Potter en fait, les parcs Universal, c'est un produit qui fonctionne. Je pense que avec
le temps de construire Harry Potter, certes, mais est-ce que ça va encore durer 40 ans? Est-ce que ça va être, remarque, tu vas me dire Star Wars, ça dure depuis vraiment très longtemps aussi.
Ouais.
Mais je sais pas, est-ce que ça s'essouffle pas? Bah, tu me disais tout à l'heure que non, parce que de toute façon, les enfants continuent de lire, donc très bien. Mais j'avais l'impression que moi, c'était quand même un truc vachement de millénial et que peut-être que les jeunes étaient passés à autre chose, mais écoute, c'est peut-être pas le cas.
Mais moi, c'est un truc que j'ai toujours pensé, depuis le succès des films. J'ai l'impression que la licence Harry Potter, elle va avoir une pérennité, comparable à celle de Star Wars. Je pense que vraiment, voilà, c'est juste mon feeling c'est à moi. Possible. Après, on peut. Je sais que
bah, là, ça existe. Hein,
je lisais aujourd'hui que
même Indiana Jones, il continue. Indiana Jones, il y en a un nouveau qui sort encore là. Donc oui, il y a quand même beaucoup de licences qui durent vraiment des décennies et des décennies, c'est clair.
Yeah, ouais.
Tu disais, pardon, tu lisais aujourd'hui.
Je lisais aujourd'hui que apparemment HBO serait donc HBO qui appartient à Warner Bros. Warner Bros. Qui produit Harry Potter et qui en détient les droits. Apparemment, ils seraient en train de développer une série pour HBO qui serait une sorte de reboot d'Harry Potter, mais sous forme donc de série et sur qui s'étalerait sur 7 saisons, une saison par bouquin.
Ok.
Je pense que c'est genre.
De toute façon, ça allait arriver.
Oui,
ouais, mais de toute façon, le reboot, moi, ça m'étonne que ça soit même pas arrivé déjà plus tôt, quoi. Parce que quand on voit les reboots Spider-Man, quand on voit les reboots, enfin, qui sont là tous les 5 ans, et les films Harry Potter, tu vois, ça m'étonne que les jeux, enfin, rien que, tu vois, sur les effets visuels et choses comme ça, j'imagine que ça a un tout petit peu vieilli. Donc, si c'est une licence qui veulent continuer à faire vivre encore très longtemps, ça m'étonne pas du tout.
Moi, je pense que HBO se cherche un nouveau Game of Thrones et qu'ils se disent, bah, en fait, on a Harry Potter, on serait con de pas le faire, quoi. Parce que je pense que c'est pas par amour de rebooter un truc qui a à peine 10 ans.
Oui, bah, de toute façon, le reboot, c'est quand même un exercice.
À mort dans toutes les maisons où il y a des enfants, enfin, voilà. Mais donc, voilà, ça, c'est la rumeur, enfin, rumeur du jour. On va peut-être en rester là pour les rumeurs finalement. Moi, ce que je voulais voir avec toi, Louis, c'est le parce que voilà le retour d'Universal en Europe. Je crois que tôt ou tard, il aura lieu. Je ne sais pas si c'est à Port Aventura, je ne sais pas si ce sera à Carré-Sénart, je ne sais pas si ce sera pourquoi pas à Londres, puisqu'on London Resort, ça a l'air d'être vraiment enterré cette fois-ci.
Ben là, oui, mais... là, je crois qu'il y a eu des nouvelles. C'est un peu la blague hein, toujours qu'on se fait, mais oui, là, il y a eu des nouvelles encore plus récentes là. Il y a deux semaines, je crois, qui disaient que oui, c'est mort de chez mort. Donc, mais écoute, je sais pas. T'as l'air effectivement très sûr. Je sais pas si si y a.
Attends, mais attends, en tout cas, en France, je suis sûr de rien.
Non, mais t'as l'air de dire que ça va finir par arriver, de toute façon que Universal va retourner en Europe d'une manière ou d'une autre, etc.
En fait, j'ai l'impression que là, ils ont un produit qui est mûr et dont ils comprennent la viabilité,
l'importance,
l'attrait, et que il y a une partie du monde, enfin, il y a un marché qu'ils n'ont pas encore couvert. Je pense aussi que, mais ça, c'est vraiment mon interprétation, mon analyse personnelle.
Oui.
Je pense que pendant longtemps, ce qui a freiné Universal à vraiment s'installer pour de bon en Europe, c'était de voir que le produit Euro Disney marchait pas. Et ce qui est quand même un peu compliqué, enfin plus complexe que ça n'en a l'air, parce qu'en fait, commercialement, Disneyland Paris, même les mauvaises années, a toujours attiré l'équivalent de 12 millions de personnes quand ça marchait pas.
Mais ça, ils le savaient, ils l'ont toujours su.
Ouais.
Que c'était pas une question
Je me demande si, pour un groupe comme Universal, il n'y a pas un truc un peu conservateur de se dire, tant qu'un produit comme Disney marche pas dans ce marché-là, j'ai peut-être pas envie de m'y lancer.
Ouais.
Parce que c'est quand même assez similaire. Et que maintenant que Disneyland Paris, c'est la fête du fric, la fête du slip, je pense que Universal, peut-être, c'est en train de shifter, de se dire, tiens, on va plus attendre. Mais voilà. Si ça devait arriver, en fait, ce serait quoi l'endroit idéal, en fait, entre l'Espagne où il fait beau, entre
on sait que
où il y a la langue et tout sera en anglais et ce serait super pertinent, et Paris pour en faire une sorte de hub à la Orlando. Mais je pense que ça collerait pas à Paris d'avoir un parc universel.
Je pense que ce sera pas en Angleterre parce que maintenant avec le Brexit et tout, ça a quand même pas mal freiné le tourisme. Et comme tu dis, la langue, bon, très bien, mais en fait le marché intérieur britannique, je pense pas qu'il soit assez suffisant pour un gros parc universel. Donc je pense que ce sera sur le mainland Europe. Et puis on sait que l'Espagne a été quand même tout à fait pressentie pour Euro Disney, donc ça pourrait être quelque chose qui soit envisageable aussi pour Universal. Donc peut-être l'Espagne, ouais.
Port Aventura est sur un des terrains qui était en compétition finale, enfin soi-disant.
Ah oui.
C'était gagné d'avance pour Paris parce que Michael Eisner avait décidé que son parc européen serait à Paris, mais pour faire monter les enchères du côté de ce qu'il pouvait obtenir des autorités, il y avait quand même une sorte de semblant de compétition qui avait été organisée. Donc en fait, aujourd'hui, Port Aventura est sur un terrain qui avait été développé initialement pour développer un parc Disney. Petite anecdote.
Je veux dire, en dehors des rumeurs là un petit peu loufoques qu'on a évoquées, je veux dire, le fait que Universal reprenne un parc déjà existant, c'est pas complètement délirant non plus, j'imagine, et comme ça, ça leur permet d'avoir, enfin voilà, de pas commencer de zéro. Donc, écoute, pourquoi pas aussi.
Mais moi, ça me semble le scénario le plus plausible.
Ouais.
Même en oubliant les rumeurs de ces deux derniers mois, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, s'ils devaient revenir, je les vois plutôt revenir à un endroit comme l'Espagne, où il fait beau, où il y a déjà une station balnéaire installée, une clientèle qui est peut-être déjà captive en vacances, et il y aurait même plusieurs façons de le faire à Port Aventura s'ils devaient racheter le truc. Ils pourraient rajouter leur land et attractions signature Nintendo, Harry Potter, Jurassic Park, soit dans Port Aventura, ou bien de rajouter un parc 100% Universal à côté du parc Port Aventura. Un peu comme Island of Adventure et les studios à côté. Je sais pas, je brainstorm, il faut pas oublier qu'il y a encore un parc, enfin une sorte de demi-parc Ferrari machin qui fait partie du complexe.
Ouais.
Par Aventura, donc on peut imaginer plusieurs choses. En tout cas, moi ce que je trouve assez excitant, c'est de me dire s'il y a un parc Universal qui arrive, ben, c'est trop bien parce que c'est Universal et qu'on adore ce qu'ils font. Mais ça boosterait la concurrence et le marché. Je pense que Disneyland Paris se sortirait un petit peu les doigts du pépette si un truc comme Universal avec les licences Harry Potter, Star Wars, Jurassic Park, Nintendo, je pense que il commencerait à avoir peut-être un petit peu plus d'ambition que de faire des boat ride Frozen familiaux, quoi. Voilà, si tu vois ce que je veux dire.
Je vois. Non, t'as raison, ce serait une saine concurrence, effectivement, et qui profiterait certainement aux fans, en tout cas.
Ouais. Bon, c'est pas pour après-demain non plus, mais je trouve... Même... En fait, c'est marrant, parce que quand je voyais passer toutes ces rumeurs, il y en a, comme on vous a dit, qui ont l'air, je pense, pas du tout... Enfin, c'est du délire de fans. Peut-être. Il y a quand même un truc, c'est que les histoires de dépôt de marque, tu fais pas ça par plaisir quand t'as vraiment rien dans le pipeline.
Et je sais pas, tu vois. Oui et non, c'est-à-dire que. Alors effectivement, c'est marqué. J'ai bien vu dans ta vidéo que, dans la vidéo que tu m'as proposé le soutien, enfin j'ai aucune notion hein, de ces dépôts de trucs, mais il y a marqué effectivement pour l'exploitation au sein de Parc et Terme, donc c'est très précis, mais parfois c'est juste de la sécurité, de se dire si on a envie de faire de la publicité par exemple pour nos parcs américains en Europe et qu'on a envie d'utiliser la marque, enfin une fois de plus je connais pas, mais il peut y avoir des scénarios de ce type là qui fait que tu as besoin d'avoir ta marque déposée quelque part pour une utilisation qui finalement n'a rien à voir avec l'exploitation réelle d'un parc à thème. Donc voilà, ne pas trop. Une fois de plus, si vous êtes juriste ou
ou si vous êtes le CEO d'Universal, nos micros sont grand ouverts, hein, voilà.
Mais un dépôt, c'est comme tu vois, comme on regarde les dépôts de, comment dire, bon ça on le sait que c'est pas forcément, ça mène pas forcément à un produit, mais les dépôts de brevets, voilà, il y en a des dizaines et des dizaines de nouvelles attractions, de trucs comme ça, qui ne verront jamais le jour, juste parce que soit c'est pour justement faire en sorte que la concurrence ait à te payer des royalties ou quoi, ou juste parce que t'as une idée et que t'as envie de la sécuriser pour plus tard, même si finalement elle est qu'à l'étape de conception. Donc à voir. Je suis d'accord. Hein, il y a plusieurs, il y a un faisceau d'indices, c'est clair. Mais à voir. Je ne sais pas.
Mais ouais. En tout cas, on peut pas faire grand-chose.
Je regardais les IPs.
Ça fait longtemps qu'on attend.
Non. Quelle est toi, t'as une IP DreamWorks ou enfin Universal préférée? Qu'est-ce que tu préfères chez eux?
Une IP Universal préférée, bah, l'IP interdite. Harry Potter.
C'est quoi Harry Potter? Ouais. Ouais. Moi Jurassic Park, je pense.
Alors.
C'est vrai que toi t'es un peu un Potterhead. Si Jurassic Park.
Le truc c'est Jurassic Park.
Pas les derniers. Jurassic World.
Ah donc toi t'es sur le parc, le OG.
Enfin l'uni. Bah les films, en tout cas les films Jurassic World étaient bien moins bons, ça c'est certain, mais comme univers à exploiter, c'est super cool quoi.
Grave. Donc d'ailleurs il y a une attraction Jurassic World flambant neuve qui a ouvert au parc de Beijing que je vous conseille de regarder sur les YouTube si vous ne l'avez jamais faite, puisque c'est une attraction qui réutilise le ride system de quel était le nom de ce truc, Spider-Man.
Le fameux,
mais dans les décors de Jurassic Park avec beaucoup moins d'écrans et pas mal de décors. Ah, ben oui, c'est le fameux truc où tu te fais courser, où ton véhicule se fait courser par un T-Rex grandeur nature.
Ah, qui est génial.
Tu vois pas ce truc? Mais attends,
je vais regarder.
C'est absolument fou.
Tu me dis YouTube, ça s'appelle le site, tu m'as dit?
Ouais, YouTube, c'est complètement nouveau. C'est un site, c'est un peu comme Dailymotion, tu dirais.
Ah oui, d'accord. attends, tu me dis que c'est à Beijing. Hein. Vous savez comment on fait, hein, on vit un peu notre life au fur et à mesure du podcast en live. Universal Beijing, Jurassic World. Est-ce que ça s'appelle Jurassic World Adventure, c'est ça?
Ouais, je dis ça.
Alors, je vais plutôt cliquer sur une vidéo qui s'appelle China's Insane Jurassic World Ride. Donc ça va être, ça, à mon avis, c'est ça.
Vous voyez le...
Très bien. Je vais pas regarder la vidéo là, oui, qui dure 8 minutes.
surtout si près du but de la fin du podcast, mais.
Ouais. Oh, en plus, c'est nos amis de Review Time. Enfin, nos amis, ils nous connaissent pas, mais c'est Review Time qui a fait cette vidéo. Donc, je regarde avec plaisir. Très bien.
Tiens, si vous nous écoutez sur Spotify, sachez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de répondre à des petits sondages ou des petites questions, et on va directement dans le player de Spotify.
Oui, et alors,
donc on va.
J'ai une petite remarque à ce sujet, Guillaume.
Le bureau des plaintes est ouvert.
Sache que, oui, mais en fait, donc cette nouvelle fonctionnalité, Spotify, ces petits salauds, ils mettent une question par défaut dans les épisodes. Donc quand nous on n'en met pas, soit tu peux poser ta propre question et dire voilà quel est votre truc universel préféré, donc on va essayer de faire que ça soit ça, mais sinon il y a marqué juste qu'avez-vous pensé de cet épisode, donc ça n'est pas nous qui mettons ça. Je crois que je l'ai supprimé sur le dernier parce que j'ai vu qu'il y avait cette option là. C'est une question complètement stupide, enfin un peu
que penses-tu de la guerre,
que penses-tu, ouais. Donc si vous voyez que cette question-là est mise en avant, qu'avez-vous pensé de cet épisode, sachez que c'est un truc automatique et que ça n'est pas nous. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas intéressé par votre réponse, mais
il y a honte, il a de cette question.
Mais la honte.
Oui, on essaiera de trouver une question pertinente. Question pertinente, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Où souhaiteriez-vous un parc universel en Europe?
Oui, mais tout le monde va dire en France.
Ouais, non.
Guillaume, alors, enfin.
Bah, moi, je dirais Charleroi en Belgique. On a des terrains qui sont dispo, hein. Il n'y a plus de Legoland Universal,
c'est...
venez.
Bah, Legoland s'est barré, ouais. non, moi je dirais quel serait l'IP que vous aimeriez voir décliner en attraction ou en land,
ouais,
en Europe.
Comme
voilà,
ça,
quelque chose qui matche un petit peu.
Pourra répondre les mignons. Vous pouvez répondre banana.
Pourquoi tu penses que j'aime beaucoup? Est-ce que j'ai dit dans un autre épisode que j'étais fan des mignons? Je sais pas pourquoi tu me
parce
fais.
Parce que je sais et que j'aime bien te outer en public avec cette information.
Oui.
Bon, chers amis.
Pour Halloween, je me déguise en mignon depuis plus de 10 ans maintenant.
Et c'est long.
Oui.
Bien, chers amis. On va en rester là.
Ce qu'on peut faire pour ceux qui aiment bien les épisodes très très longs, comme on a dit ça, on peut laisser couler juste du silence pendant encore une heure ou deux. On pourrait mettre des bruits de jungle, des trucs un peu sympas.
Ouais.
Et puis
des petits easter eggs à gauche à droite.
On fait ça.
Très bien. Eh bien, écoutez, non, mais voilà, en fait, n'hésitez pas à nous dire dans Spotify ou sur Twitter ou ailleurs, sur Facebook, par exemple, si vous, ça vous branche, les parcs Universal ou pas du tout, parce que je sais qu'il y en a qui sont que Disney. Et quand j'entends les gens qui disent « moi, je suis que Disney », j'ai envie de leur dire « mec, tu passes à côté d'un truc ». Mais venez quand même nous le dire, voilà,
ouais,
sur les réseaux. Nous, on va en rester là, cher Louis.
Yes.
Donc comme toujours, n'hésitez pas à nous donner quelques belles étoiles sur Spotify et Apple Podcast. On a reçu quelques commentaires sur Apple Podcast, ça nous fait plaisir parce que ça nous fait monter nos algorithmes.
Un point.
J'ai entendu dire que on se rapprochait de plus en plus, on va bientôt dépasser les grosses têtes, hein, dans le classement français.
Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai que les commentaires nous font extrêmement plaisir, d'autant plus que alors on parle avec vous sur Twitter, sur Facebook, et c'est super, mais c'est vrai que c'est, il y a un peu une petite clique hein, sur Twitter qui est toujours la même et qu'on, avec qui on a beaucoup de bonheur à partager tous nos petites hot takes sur les parcs à thème. Mais quand il y a beaucoup de personnes aussi qui ne sont pas sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, c'est qui vrai. Viennent nous dire tout le bien qu'ils pensent du podcast justement via Spotify, via Apple Podcast, et du coup moi ça fait encore plus plaisir parce que voilà, quand on prend le temps vraiment de d'écrire une petite review, et moi c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus quand j'aime bien des créateurs, des trucs comme ça, je vais prendre une minute pour dire
merci.
Que ça plaît, et ça fait grave plaisir. Donc merci beaucoup à vous spécialement qui n'êtes pas nécessairement sur les réseaux sociaux et qui prenez le temps de d'écrire ça, c'est vraiment trop cool.
Et d'ailleurs on parle souvent des réseaux sociaux, de la file d'attente, mais en fait à un endroit où vous venez régulièrement nous donner des petits messages plutôt en privé, c'est sur Instagram, sur nos comptes. Alors on n'a pas de compte.
Non, sur Facebook. On n'a pas de compte Instagram.
On n'a pas de compte Instagram parce que le handle, la file d'attente, c'était déjà pris et qu'on en a resté sur cet échec.
Ah bon.
J'avais contacté le mec. Ce compte est inactif depuis 2016 et je lui avais envoyé un message, mais c'est resté.
Mais sur Facebook, oui, il y a.
Mais ce que je veux dire, c'est que
nous écrivent sur Facebook.
Il nous envoie des messages sur les pages de Parcéologie et les pages de Le Parcorama, et donc ça nous fait tout aussi plaisir, même si on n'a pas une page Insta dédiée à la file d'attente. Donc en tout cas, quels que soient vos encouragements, vos messages, tout ça, on est super heureux chaque fois que vous nous
signifiez. Il est même pas français, alors celui qui a pris le truc, la file d'attente là, pourquoi il...
Bon,
il a pris,
écoutez, pendant que Louis va essayer de contacter ce mec par
qui fait des très bonnes photos, ceci dit, je vois un compte un peu arty, effectivement pas très rempli, mais
alors,
voilà, 49 posts.
Et si vous alliez tous follower ce pauvre photographe pour qu'il se dise pourquoi est-ce que j'ai plein de fans de parcs d'attractions qui me follow maintenant sur Instagram. Écoutez, on va essayer de l'acheter avec des... Peut-être si on lui offrait
des
tickets
sous.
Pour Itrenaline, peut-être qu'il nous laisserait les clés de son compte Insta.
Oui.
Je ne sais pas. Peut-être si on peut l'acheter avec ça. Louis, on va laisser ces pauvres auditeurs. Ça fait un quart d'heure qu'on essaie de clôturer l'épisode. Écoute, je t'embrasse très chaleureusement et
si vous êtes en voiture, accélérez. Si vous êtes en train de courir, accélérez. Si vous êtes en train de cuisiner, accélérez. Tout ça quoi.
Bon, et on se retrouve très bientôt dans une autre file d'attente où on parlera peut-être. Je vous donne un indice pour l'épisode prochain. Mais l'indice est tout à tisse. Vous en faites ce que vous voulez.
Ah bon? Ah ouais.
Vous verrez bien. Louis, on se dit à bientôt dans une file d'attente.
Ça marche, allez, salut à tous.
Bye bye, ciao.
Bisous.